Bonjour, c'est Margot Delpierre et vous écoutez Backstage. D'habitude, vous entendez ici les femmes et les hommes qui font la culture dans l'ombre des stars. Cette fois, ce n'est pas un entretien qu'on vous propose avec Thomas Langlin. On vous emmène dans les coulisses du caveau de la Huchette, en plein quartier latin, à Paris. Un club de jazz swing, historique, populaire, le monde entier l'a découvert grâce au film La La Land de Damien Chazelle, qui s'en est inspiré pour une scène, un film récompensé de 6 Oscars et 7 Golden Globes. Depuis sa sortie en 2017, la fréquentation a explosé.
Voilà, ben voilà.
Bonjour, bonjour.
L'année Doris, voilà.
Vous allez bien ?
Bonjour, ça va très bien.
Margot.
Bonjour Margot.
Ça va ?
Vous connaissiez déjà ici cet établissement, non ?
Non, c'est la première fois.
Ah. La dernière,
bah, bien sûr.
Et vous êtes tout expliqué.
Wow.
On est au numéro 5, rue de la Huchette, avec cet immanquable néon rouge accroché sur la façade du bâtiment vieux de 500 ans. Un club qui fait plutôt vintage au milieu des commerces touristiques. C'était par le passé un lieu de rendez-vous des Templiers, une loge secrète des francs-maçons, une adresse aussi des cordeliers et des montagnards pendant la Révolution. Et c'est en 1946 qu'est fondé le caveau de la Terreur. Très vite, il deviendra caveau de la Huchette. Tous les soirs depuis, on y joue, on y danse surtout. Sidney Béchette, Count Basie et Claude Bolling sont passés sur la petite scène du club, une adresse détenue depuis 1970 par le vibraphoniste Danny Doris, fils spirituel de la légende Lionel Hampton.
Propriétaire du caveau de la Huchette depuis 50 ans. C'était déjà un lieu mythique, c'était déjà un établissement très connu, mais pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le club de jazz le plus connu sur la planète. C'est l'histoire de Paris, un peu, en ce qui concerne la musique, en tout cas, oui, bien sûr. Très honorant, en fait, d'être le propriétaire d'un établissement comme celui-là, oui. C'est un club de jazz, vous savez, dans les clubs de jazz, il faut écouter religieusement les musiciens. Bon, ici, il y a des musiciens tous les soirs aussi, qui jouent formidablement bien. Mais si vous voulez danser, vous dansez. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour danser sur le jazz. Et c'est une ambiance excessivement festive ici, tout le temps. Le jazz, pour moi, avant tout, c'est le swing. C'est-à-dire cette pulsation rythmique que vous avez. Et les jeunes aiment beaucoup ça. D'ailleurs, ils écoutent du rock'n'roll parce que dans le rock'n'roll, il y a une espèce de pulsation qui existe. Et ils ne connaissent pas assez le jazz classique, ces jeunes. Et quand ils viennent ici, ils reviennent ensuite. Parce qu'ils découvrent cette musique et ils adorent. Hein. Première fois au caveau de la Huchette, est-ce que je vais m'en rappeler? Là, c'était en tant que musicien, donc vibraphoniste, en 1968. Oui. Et à l'époque, c'était donc mon prédécesseur qui était encore là, et il y avait tous les grands artistes de l'époque, comme Zanini, comme tous ces gens-là, qui étaient de second caveau de la Huchette. Maxime Sory, qui a joué ici presque 13 ans. Je cherchais, dans les années 70, un endroit pour m'installer, justement, pour ouvrir un club. J'avais visité des cas formidables dans Paris, mais c'était toujours difficile à ouvrir. Il se trouve que mon prédécesseur, dans les années 69, était fatigué. Il m'a dit, j'en ai assez, je veux vendre, je suis intéressé. Et de fil en aiguille, voilà, je suis devenu propriétaire. 30e anniversaire avec le grand orchestre de Lionel Hampton ici, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire du caveau de la Huchette, qui m'a marqué aussi d'ailleurs. Alors je me suis fait à la fois des amis et des ennemis, parce que bien sûr Lionel Hampton au caveau de la Huchette à l'époque, en plus c'était vraiment la star des stars. Mais on a été obligé de restreindre les entrées, donc ça a été uniquement sur invitation. Il y a eu énormément de gens qui ont voulu rentrer et j'étais obligé de leur dire « Je suis désolé, mais archi désolé, mais on ne peut pas, c'est pas assez grand, on n'est pas à la salle Pleyel ici. » Pour moi, c'est le plus grand virtuose du vibraphone. Je parle en tant qu'instrumentiste, là, aujourd'hui, pour moi, il n'est pas égalé. Hein. Ça reste pour moi le plus grand vibraphoniste de toute l'histoire du jazz. Il y a eu d'autres musiciens un peu exceptionnels, hein, comme Milt Jackson, qui était aussi un grand vibraphoniste. Mais Lionel Hampton, en plus, c'était un showman, c'était un, sur scène et c'était du délire. Oh.
Philippe O'Neill. Donc je viens très souvent au caveau de la Huchette. J'ai la grande chance et l'honneur de jouer avec Danny sur certains festivals de jazz où on a monté un duo de batterie avec son fils Didier. Sinon, je joue ici de temps en temps avec des personnes comme Ronald Baker, trompettiste émérite et chanteur aussi, très très bon chanteur. Et puis de temps en temps, je viens faire le bœuf quand il n'y a pas autre chose à faire en ville. Et puis on vient voir les copains et puis c'est un peu... c'est un peu comme une deuxième maison où quand on a un peu le blues, on vient ici prendre un peu de bonnes énergies et entendre et écouter et jouer de la belle musique. Voilà. Ce qui me plaît au caveau, c'est surtout que ce soit un endroit où il y ait de la musique live tous les soirs qui soit dédié aux danseurs. Donc c'est vraiment du jazz dédié aux danseurs. Et ça, je trouve ça fantastique parce qu'il n'y en a plus nulle part. Toute la tradition des grands ballrooms à New York et aux États-Unis et partout d'ailleurs, les dancing, comme on appelait ça en France avant, c'était juste merveilleux, c'était la musique populaire de ce temps-là. Et grâce à un endroit comme le caveau de la Huchette, le message continue de vivre et continue d'être transmis aux plus jeunes générations. Et un film comme La La Land a été vraiment un déclencheur pour que les jeunes viennent, parce que les jeunes passaient devant cet endroit en disant « Oh là là, caveau de jazz, la Huchette, là, ça a l'air vieux, c'est pour les vieux ». Et depuis le film La La Land, il y a des 20-25 ans qui viennent traîner ici le week-end. Parce que, c'est accessible au niveau financier pour rentrer dans ce bar. Et puis, on peut y passer la nuit. Et les jeunes, chaque jeune que j'ai rencontré qui sortait d'ici avait le sourire comme une banane avec des yeux pétillants en disant « Mais c'est génial, faut qu'on revienne avec tous nos copains, etc. » Et c'est unique. C'est unique et donc j'espère que ça va encore vivre 70 ans de plus au moins. Tant que Danny sera parmi nous, je pense que cet endroit vivra avec des bons musiciens, de la belle musique et des gens heureux, des gens qui vont être heureux de venir ici.
Alors je m'appelle Marine, j'ai 29 ans. Les caveaux, j'ai découvert ça il y a un an et demi et franchement c'est devenu un peu notre QG. C'est-à-dire qu'on vient au minimum une fois toutes les deux semaines. Qu'importe le soir. Quand ça finit pas très tard, en réalité, même quand tu bosses le lendemain, il n'y a aucun souci. Tu peux danser, que ce soit swing, jazz, rock, donc c'est vraiment très sympa. Ah, j'aime pour danser en général, oui.
Philippe Petit est organiste.
C'est une machine à remonter le temps. Tu vois, tu te retrouves dans l'ambiance d'il y a 50 ans, quoi, tu vois. C'est génial. C'est toujours pareil, depuis 1946, c'est pareil. Oui, c'est un des rares endroits encore privilégiés comme ça. Les portables passent pas. Non, mais sans déconner. Les gens sont normaux, naturels, comme ils étaient avant. C'est con à dire. Hein. Ça fait un peu vieux machin quand je parle. Mais c'est vrai que c'est sympa. Ça m'est bien.
À l'affiche ce soir-là, le Danny Doris Swing Band, le patron en personne et ses musiciens.
La pire journée, traditionnellement, c'est le lundi. Et on joue lundi et mardi, parce que c'est le patron qui se programme lui-même pour pas saborder la boîte, parce qu'il connaît beaucoup de gens, et puis il est très connu, puis c'est un très grand artiste, donc il y a quand même toujours du monde avec lui. Et ce soir, particulièrement, c'est particulièrement fourni. Je peux pas dire pourquoi, il n'y a pas de règles. Il fait chaud, puis il est souvent déçu quand les gens dansent pas. Mais l'essentiel, c'est qu'il soit là.
Ça nous fait quoi de jouer avec Danny? Ça nous fait du bien. Comment dire, ça nous réconcilie avec le jazz d'avant.
Il paraît qu'il faut qu'on aille bosser, là. Allez, viens. Allez. Thank you.
leur demandais s'ils pouvaient enregistrer un peu quand on parle comme ça. Donc,
ah oui.
Une ambiance, une ambiance.
Oui, on va essayer de ne pas parler la bouche pleine.
Et en pleine répétition.
Là, on est en train de travailler le répertoire, vous voyez.
Répétition. Avec du vin blanc et de la charcuterie.
Voilà. C'est important pour le souvenir.
C'est-à-dire qu'on répète 10 minutes, 10 minutes. Après, on prend l'apéro pendant une heure et demie avant d'aller dîner.
C'est un wine tasting, c'est une dégustation à l'aveugle. Hein. Faut bien, quand même. Les mauvais musiciens qui essaient de faire du jazz pour se donner un alibi culturel, tu vois. C'est parce que le jazz, c'est un peu comme le label rouge pour les poulets. Tu dis, moi j'ai été jazzman, moi j'ai fait du jazz dans ma jeunesse, vous comprenez. Alors ça veut dire, ah lui, il doit être un bon musicien. C'est un truc de com, tu vois. Chez Barclay, il disait ça, je me rappelle, il y avait des trucs comme ça. Il disait, faut dire que t'as fait du jazz dans ta jeunesse.
Il y en a qui sont naturellement flûtistes, mais nous, on n'est pas naturellement.
Ouais, ça fait bien. Ah oui, non, lui il chantait, il jouait du jazz dans les cabarets étant jeune. Ça fait genre sérieux là, ça peut pas être un mauvais musicien puisqu'il joue du jazz. C'est une catastrophe.